Bienvenue sur cette antenne, vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, je reçois Jackie Moubedi d'ADRA Europe. Bonjour.
Bonjour.
En fait, c'est plutôt vous qui me recevez dans vos locaux.
Bienvenue.
Merci beaucoup de votre accueil. Alors, je rappelle que ADRA, c'est l'Agence de développement et de secours adventiste. Dans cette période de décembre, Jackie Moubedi, vous allez nous parler de cette fin d'année avec des actions spécifiques et notamment avec ce que vous appelez le Giving December.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est plusieurs actions qui sont menées, donc juste avant la période de Noël, en Europe et aux États-Unis. Giving December, ça fait référence à la semaine du Black Friday, où les gens aux États-Unis vont avoir des réductions énormes sur certains articles. Et les organisations humanitaires ont pensé, mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'autre? Et ont pris donc le Giving Tuesday, le mardi de la donation. Et donc, c'est passé aussi chez nous en Europe, et c'est donc plusieurs initiatives qui découlent de cela pour pouvoir, en cette période de fin d'année, de Noël, où on dépense beaucoup, mais c'est aussi le moment d'être en famille, de partager les cadeaux, mais aussi de penser aux autres.
Quel type d'actions sont menées sur le terrain par les différents bureaux d'ADRA en Europe?
Alors, évidemment, il y a toutes sortes de manières de donner. Et en cette période, les bureaux ne manquent pas d'imagination pour faire en sorte que la donation soit quelque chose de festif et vraiment dans le thème de Noël. Je vais donner quelques exemples. C'est pas tout ce que tous les bureaux en Europe font, mais c'est quelques exemples qui ressortent un peu du lot. En Norvège, on organise un concert de Noël. On appelle ça comme ça, mais c'est un concert de fin d'année en novembre. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que non seulement il est en ligne, mais aussi il est retransmis par une télévision du pays. Et donc, ça touche vraiment une plus large audience.
Et donc, en fait, l'objectif de ce concert, c'est de sensibiliser les auditeurs,
oui,
ou les spectateurs à donner pour les bénéficiaires d'ADRA.
Exactement. Donc ici, soit ils ont un projet spécial pour lequel on va donner, soit on va prendre les dons, on met en avant un projet et toutes les donations vont aller à ce projet-là.
Alors donc, il y a d'autres actions aussi qui sont menées, notamment en, oui, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni.
Oui, tout à fait. Par exemple, on encourage les enfants à aider d'autres enfants et ça, c'est vraiment important, surtout dans cette période, et la générosité des enfants. Et donc, il y a les fameux colis de Noël.
Oui, alors c'est qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe?
Une petite boîte en carton que vous recevez, vous la montez et alors vous la remplissez de jouets, de friandises, de matériel scolaire, de sous-vêtements. En fait, c'est pour les enfants entre 6 et 12 ans, même un peu plus jeunes, mais bon, c'est l'âge qui reçoit le plus. Et on met aussi du matériel scolaire, je pense que j'ai dit, un petit jouet, quelque chose, pour vraiment que les enfants reçoivent quelque chose qui est fait par d'autres enfants. Donc ça, c'est la version, on va dire, connue, ou la première version. Mais depuis quelque temps, au Royaume-Uni notamment, et maintenant en Belgique aussi, et aux Pays-Bas, il y a les boîtes virtuelles. Donc, on se rend sur le site internet et là, on a la possibilité de choisir. C'est très ludique, c'est coloré. Voilà, on va choisir dans chaque catégorie un article et on a sa boîte, on la paye. Et après, dans les pays qui reçoivent, cette année, c'est la Serbie, l'Albanie, le Monténégro et la Biélorussie, je pense. Dans les bureaux ADRA de ces pays vont alors acheter le matériel et monter les boîtes et les donner aux enfants.
Donc ça, c'est une belle action aussi.
C'est une belle action.
Les enfants pour les enfants.
Exactement, oui.
Et puis donc, il y a aussi en Suède une grande soirée de gala.
Tout à fait. Et cette soirée se passe en direct sur Facebook. C'est les gens d'ADRA qui sont là et qui présentent. C'est aussi plusieurs intervenants, mais enfin, il n'y a pas que des concerts. Il y a des reportages, il y a des témoignages. C'est très ludique. Et voilà. Et c'est aussi pour récolter de l'argent et mettre en avant cette belle période. Voilà. On va donner et ça va être chouette, mais en même temps, on passe un bon moment tous ensemble.
Et puis donc, il y a l'Autriche aussi qui est pleinement dans le thème de la fin d'année et de Noël avec un calendrier de l'Avent.
Oui. Et donc, si on commence ce petit calendrier, donc c'est une boîte qui est repliée, on la reçoit chez soi, on monte la petite boîte et on a une petite maison. Et sur la maison, ben, on a les jours et c'est un calendrier de l'Avent un peu spécial. On met chaque jour quelque chose et l'argent qui est récolté à la fin du mois de décembre, ben ça sert comme don qu'on va renvoyer à ADRA.
Alors c'est une belle idée ça.
C'est une chouette idée. Mmh. Et pour les enfants, enfin c'est aussi très visuel, mais c'est vraiment chaque jour je pense à est-ce qu'on a mis quelque chose ou pas et voilà, on découvre notre petite boîte.
Et puis ensuite il y a la République tchèque qui a une application virtuelle qui permet aussi de faire des dons solidaires.
Oui, tout à fait. Cette application existe déjà depuis 2 ans ou 3 ans maintenant. C'est une très chouette application. Elle est ludique et évidemment, on va donner de l'argent. Là, on se concentre sur quelques éléments. Est-ce qu'on va construire un puits? Est-ce qu'on va offrir à une famille une chèvre ou une poule? Est-ce qu'on va offrir une petite maison? Ou est-ce qu'on va offrir la construction d'une classe? C'est vraiment très, très varié.
Classe d'école.
Classe d'école. Mmh. Et donc, on arrive sur le site et on voit un peu, on peut choisir. Et quand on appuie sur un des éléments, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça apparaît en 3D dans la pièce. Et donc, nous, on l'a déjà essayé ici, on aime beaucoup. Donc, voilà, c'est aussi une manière rapide pour que les fonds arrivent.
Donc, une application développée par ADRA République Tchèque.
Oui, tout à fait.
Et puis, il y a aussi une récolte de fonds qui est organisée chaque année au Portugal.
Oui.
Et c'est encore le cas cette année.
Tout à fait. Ils organisent un concert, ils font plusieurs choses, mais cette année, ils ont pris une ambassadrice connue, une influenceuse, on pourrait dire, en fait, qui est connue dans le monde du bien-être. Et c'est elle qui a fait toute la campagne du Giving Tuesday, donc, pour encourager les gens à donner pour un projet bien spécifique. Donc, voilà, ça, c'est quelques actions qui sont menées comme ça en Europe.
Alors donc, Jackie Mouvedi, on comprend que le mois de décembre est finalement un mois un peu spécial dans le calendrier humanitaire. Mm-hmm. C'est une période de surconsommation où il est important de sensibiliser la population à ceux qui ont moins ou qui sont en difficulté.
Tout à fait. C'est en Belgique qu'on appelle Giving December, donc peut-être c'est pas la même chose partout, mais ça représente quelque chose en Europe, cette période de Noël. Donc c'est une période où on est plus généreux de toute façon, et donc on aimerait aussi partager avec d'autres. Il y a certains des cartons qui sont physiques vont aller cette année aux enfants qui ont été inondés ici en Belgique. Donc il y en a
pendant l'été,
pendant l'été. Mmh. Et donc ça a vraiment du sens et de partager ce que nous avons avec d'autres.
Finalement, c'est donner un sens au merveilleux message de Noël.
Exactement.
Merci beaucoup, Jackie Mouvedi. C'était Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, donc, nous étions en compagnie de Jackie Mouvedi d'ADRA Europe. Merci beaucoup de votre accueil et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt, Oscar.
Au revoir.
Au revoir.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de nous adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary-Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
Ça se passe à la maison, ça se passe un petit peu quand j'ai du temps, donc ça peut être le matin, l'après-midi, tard le soir. Et puis, ça n'a rien de très romantique. J'ai pas de plume d'oie avec un beau parchemin. Je travaille sur un portable.
C'est vous l'histoire à la tâche ardue aujourd'hui, celle de raconter un épisode de la vie d'une romancière. Natania Bochung rédige sur un ordinateur du troisième millénaire, mais c'est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, en Suisse, qu'elle plonge ses lecteurs. Elle signe Eponina ou encore Galia, ses deux derniers romans épiques. Natania est née en novembre, le mois des feuilles mortes, dit-elle en souriant. Pourtant, ses feuilles se transforment. Natania les a ramassées pour y écrire tout d'abord des poèmes un peu maladroits, puis des chansons et des histoires. Un goût pour l'écriture qui remonte à sa petite enfance. On la découvre au micro de Christine Rémy.
C'est vrai que j'ai toujours eu du plaisir à écrire. Depuis toute petite, je crois, à partir du moment où j'ai commencé à apprendre le vocabulaire, à pouvoir tenir une plume et puis tracer des mots, j'avais envie d'exprimer quelque chose, déjà parce que j'aimais beaucoup les histoires.
Comment est-ce que sont nés ces romans historiques ? Est-ce qu'il y a eu un ou des éléments déclencheurs ?
Alors oui, en fait c'était presque accidentel au départ. Donc j'avais déjà publié 3 romans qui n'étaient pas proprement parlé historiques. Et là en fait un jour je rentrais avec ma fille du musée d'Avenches et j'avais été vraiment émue devant la petite vitrine qui était consacrée aux premiers chrétiens de Suisse, en tout cas de ceux pour lesquels on a retrouvé une trace au niveau archéologique. Et puis j'en ai simplement parlé à mon mari. Et puis lui m'a lancé cette boutade, il m'a dit ben fais-en un roman. Et puis là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais écoute, tu te rends absolument pas compte du travail que ça représente de devoir fouiller dans l'histoire. Moi, je suis pas historienne de formation, même si j'ai fait un cursus de latiniste. C'est quand même un monde inconnu pour moi. Et donc, en fait, d'abord, j'ai balayé cette idée de la main. Et puis, ça a fait son chemin, parce que d'une part, moi, j'aime beaucoup lire les romans historiques. Et là, petit à petit, je me suis dit, ben, je vais aller choisir des livres sur la période, je vais un petit peu m'immerger dans cette fin de l'Antiquité en Suisse. Et puis, en fait, assez rapidement, l'idée, la trame de base s'est imposée, et puis c'est comme ça que c'est parti. Puis je me suis dit, comme pour le premier roman, je vais commencer à écrire un peu, si j'ai du plaisir, si je sens que ça passe, je continue, sinon je m'arrête très vite. Et en fait, malgré des moments assez difficiles où je me demandais comment j'allais me documenter, comment j'allais pouvoir résoudre certains problèmes au niveau de toute la logistique que ça représentait, de pouvoir me représenter cette époque, ben finalement je me suis prise au jeu et puis c'est avec un énorme plaisir que je me suis lancée dans cette aventure.
Et comment est-ce qu'on choisit un personnage ? Est-ce qu'il s'impose de lui-même ? Est-ce que c'est une projection de soi-même, c'était comment pour vous à ce moment-là ?
Alors d'abord, ce qui s'est imposé à moi, c'était l'idée d'une femme. Parce que j'avais envie de rendre hommage aux femmes, et aux femmes anonymes en particulier, toutes celles qui ont pu marquer l'histoire comme mères de famille, dont on ne parlera jamais. Et là, en fait, abordant le sujet de la foi des tout premiers chrétiens, j'avais envie d'être tout à fait distante de la géographie classique, des saints avec toutes sortes de légendes, qui ont une base en général assez véridique, mais qui sont très très romancées. Et puis j'avais envie d'avoir un personnage qui soit très proche finalement du peuple, et je dirais proche de la femme d'aujourd'hui, malgré la distance dans le temps, quand même une femme qui vibre, une femme qui passe dans une époque troublée.
Il y a certains des personnages de vos romans qui ont une foi inébranlable dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'image de votre propre foi ?
Oui, dans le sens où elle est fondamentalement, je crois, ancrée dans la rencontre que j'ai faite avec Jésus-Christ. Et en même temps, c'est des personnages qui sont vulnérables, qui ont des moments de doute, et ça aussi, ça me ressemble. Des épreuves qui les marquent assez profondément pour que les vérités faciles ne soient pas satisfaisantes, mais finalement, qui sont toujours à la recherche d'une relation avec un Dieu qui dépasse les circonstances, aussi difficiles soient-elles, de leur époque.
Mais justement, vous-même, comment vous êtes entrée en contact avec cette foi, avec ce Dieu dont vous parlez ?
Alors, je dirais déjà par ma famille, dans mon plus jeune âge, puisque mon père est pasteur, ma maman l'a toujours accompagné, secondé dans son travail. Et puis, je dirais que j'ai pu être la témoin de l'intervention de Dieu au cœur de la famille, pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes qui nous étaient confiées. Donc, pour moi, ça a été comme une sorte d'évidence qui dépassait le raisonnement philosophique ou le questionnement purement intellectuel. Mais ça a été vraiment une vie dans laquelle j'ai vu Dieu pourvoir, des fois de manière très pratique, très concrète, à nos besoins. Moi, je suis née dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Mon père était pasteur dans le milieu des bassins miniers et il y avait beaucoup de pauvreté. Pour la famille, c'était même pas évident de pouvoir boucler la fin du mois. Donc, parfois, pour la nourriture, pour les vêtements, nous dépendions vraiment de Dieu. Et dans cette époque de ma vie, j'ai vraiment pu voir comment il a pu répondre, comment il a pu guérir aussi des gens qui étaient malades, comment il a pu consoler des gens qui étaient dans le deuil ou la souffrance. Et tout ça, c'est sûr, ça m'a marqué. Et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre dans mes personnages. C'est peut-être la partie la plus biographique des romans, en fait. C'est que cette rencontre que j'ai faite avec Jésus, qui s'est affinée ensuite durant mon adolescence, durant l'âge adulte, qui s'est mûrie, qui a aussi été mise à l'épreuve de difficultés, tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre pour encourager, en fait, le lecteur à lui-même aussi faire une démarche et de se dire, mais au fond, si au-delà de l'histoire, au-delà du roman, il y avait une rencontre possible pour moi, c'est vraiment ce qui motive mon écriture.
Donc, un roman, mais peut-être plus qu'un roman, une histoire possible.
Oui, je crois que quelque part, je pense que tous les auteurs transmettent quelque chose de la vie, essayent de toucher leur lectorat d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est dans un style tout à fait différent, qui peut être de partager une désespérance ou une perception du monde comme étant absurde. Puis pour moi, c'est plutôt d'orienter le lecteur vers un questionnement existentiel, de se dire, mais au fond, ma vie, est-ce qu'elle a un sens ? Alors, je dirais que il y a certains points communs entre l'Europe à l'époque, l'Empire romain, et puis notre époque, bien qu'il y ait des grandes différences. Alors je dirais, les points communs, c'est une immense palette d'offres spirituelles. On avait accès à toutes sortes de religions. Bien sûr, il y avait la religion romaine traditionnelle, qui évoluait d'ailleurs beaucoup, qui n'était pas tout à fait la même ici, dans la région de l'Helvétie celte, qu'elle n'était à Rome. Et puis, il y avait beaucoup de religions qui étaient importées d'Orient. Les gens pouvaient choisir dans cette palette, combiner plusieurs rites, avec une exigence, c'était de rester dans les fondements de Rome. C'est-à-dire qu'on pensait que si les dieux romains ou l'empereur, à partir du moment où il y a eu le culte de l'empereur, n'étaient pas honorés, on mettait en péril la société. À l'époque, religion et vie sociale, vie politique, c'était intimement lié. Et donc, si tout d'un coup, on adhérait à un dieu unique, comme c'était le cas pour les juifs et les chrétiens, et qu'on refusait de pratiquer le culte pour l'empereur ou les dieux de Rome, on était perçu comme un traître. Aujourd'hui, on a aussi cette grande palette de religions, on n'a plus d'exigence de servir notre société par un culte. Par contre, il y a une sorte de pensée unique quand même, je trouve, dans laquelle on devrait être d'accord que tout est relatif, que chaque vérité est bonne. Et donc, quand on professe une certitude en disant, eh bien, pour moi, il y a un Dieu unique, bien sûr, on ne va pas risquer la reine, les lions ou la prison, mais très souvent l'incompréhension. Et là, je pense qu'il y a un point commun aussi qui nous touche aujourd'hui, et qui était absent pendant tout le Moyen-Âge et les siècles passés, puisque petit à petit, l'Église avait pris une place de religion d'État. Et donc, ça a été le contraire. Pendant des siècles, il fallait être chrétien pour être bien perçu. Alors aujourd'hui, quelque part, moi, j'apprécie qu'il y ait à nouveau cette liberté, parce que pour moi, la foi est fondamentalement personnelle. Alors, je dirais que je ressens la foi, le plaisir de Dieu et mon plaisir en lui. C'est comme un peu si on imagine un bateau sur un lac avec une bonne brise qui souffle et la voile qui se gonfle et le bateau est comme propulsé. Bien sûr que le marin à bord a tout un travail à faire pour pouvoir diriger son bateau, mais quelque part il sent qu'il y a le souffle. Si le souffle retombe, il aura beau avoir toute la technique possible, ce sera pas pareil. Et moi je ressens cela aussi quand j'écris. Et si je le ressens pas, je me dis tiens là il y a un signe auquel il faut être attentif. Mais c'est vrai que je ressens souvent ce plaisir de pouvoir communiquer. Alors déjà sur le fond, pouvoir communiquer la vie, pouvoir communiquer une espérance. Et puis aussi sur la forme. Je pense qu'on a chacun été créé avec des dons différents. Pour certains, comme Eric Liddell, c'est le plaisir est dans le fait de courir. Quand il court, il sentait que quelque part, il était en train de faire ce pour quoi il avait été créé. Et c'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour n'importe quel métier. Je pense qu'un bon boulanger qui pétrit sa pâte et qui le fait bien peut ressentir aussi le plaisir de Dieu, parce qu'il sait qu'il a été fait pour ça. Un bon menuisier, quelqu'un de manuel, il aura du plaisir à fournir avec ses mains un beau travail. Pour moi, il y a différents domaines dans lesquels je ressens ce plaisir, aussi dans mon travail de maman, mais dans l'écriture, il y a quelque chose qui se passe. Voilà.
Et puis on retrouvera Natania également dans une deuxième émission un peu plus tard. Alors à la prochaine, bye!
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple, depuis la France. Il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.